Chapitre 26. La salle souterraine, située sous l'église, ne ressemble pas à une crypte, plutôt à un lieu de culte. Pas de tombeau, mais un modeste autel niché dans une chapelle surmontée d'une simple croix de fer rouillée. L'écrin de pierre nimbe chaque son d'un écho mat particulier, sans aucune résonance. Charles semble familier des lieux. Ici, nous serons à l'abri, déclare-t-il. Sa voix est différente, plus ciselée. Dans ce silence sépulcral, rien ne vient la parasiter. Vincent, ce que je vais vous révéler va vous sembler extravagant. Rien ne vous oblige à le croire. Je dois cependant vous prévenir que vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Il ne vous sera plus possible d'envisager notre monde comme vous le faites encore en cet instant. Ne croyez pas que j'exagère. Je pèse mes mots. Je l'ai moi-même vécu. Vous pouvez cependant décider d'y échapper avant que je ne commence. Si vous me demandez de me taire, je vous obéirai. Votre vie reprendra alors son cours. Mais cela ne vous protégera pas de ceux qui savent que vous existez.
Bon sang, mais qui êtes-vous ?
Je m'appelle Charles Addison. Je suis officiellement mort voilà 9 ans. On m'a inhumé dans un petit cimetière normand qui domine la mer du haut de la falaise. Personne ne vient se recueillir sur ma tombe. Pas même moi. Je suis mort parce que je n'avais plus de famille, mort parce que je crois en un monde meilleur. Je suis mort pour être libre. Désormais, je ne suis plus qu'un prénom, comme vous, Vincent, parce qu'à la différence de beaucoup, nos vies ne se résument pas au patronyme que nous portons, mais à ce que nous accomplissons. De mon plein gré, j'ai rejoint certaines personnes dont je partage les espoirs. J'ai adjoint mes forces aux leurs. Comme ces gens, chacun dans leur domaine, je consacre mon énergie et mes ressources à servir ce en quoi je crois. Je n'obéis aveuglément à personne. Je ne fais que soutenir ce que j'approuve. Je ne décide pas toujours, mais je m'engage sans réserve lorsque je suis convaincu. J'en sais assez sur vous pour croire que ces mots peuvent trouver une résonance au plus profond de votre âme. Vous ne savez rien de celui que je suis vraiment. En êtes-vous certain? Étonnez-moi. Charles dévisage Vincent comme on déchiffre un grimoire. Vous me lancez un défi? Vous voulez des preuves? Les débutants en ont souvent besoin, mais êtes-vous prêt à les recevoir? Disons que je suis assez vieux pour savoir que cette vie peut vous reprendre tout ce qu'elle vous a donné. Je n'ai rien à perdre. Addison sourit. Soit, vous aurez choisi. Il marque une pause avant de se lancer. Vous vous appelez Vincent Cavell. Vous et votre frère Pierre avez perdu vos parents très jeunes. Votre père a été tué sous vos yeux par un ouvrier jaloux du travail qu'il venait d'obtenir à sa place un soir, au cabaret qui se trouve d'ailleurs face au cimetière où vous étiez l'autre nuit. Vincent se crispe et son regard se durcit.
Comment pouvez-vous savoir cela ?
De source sûre. Seul mon frère est au courant. Je n'en ai jamais parlé à personne.
Connaissiez-vous ma famille, mon père ?
Non. Contrairement à ce que vous affirmez, vous vous êtes confié à quelqu'un d'autre. Je suis certain que vous vous en souvenez.
Vincent vacille. Qu'un inconnu dont il se méfie puisse lui livrer ses plus intimes secrets lui donne la nausée. Il titube.
Les mots résonnent dans son cerveau de plus en plus agité. Après le décès de votre mère, vous et votre frère avez été jetés à la rue par vos propriétaires, malgré votre offre de les servir. Vous avez décidé de vous cacher pour ne pas vous retrouver placé en orphelinat. Vincent est sonné. Il lève la main, dérisoire bouclier dressé contre les paroles qu'il entend. Sans se laisser émouvoir, Charles poursuit. Vous avez alors fait la connaissance d'Étienne Bégel, horloger, serrurier et grand spécialiste des systèmes mécaniques qui, outre ses activités officielles, œuvrait aussi pour des travaux plus discrets, voire secrets. Il vous a pris sous son aile et vous a formé. Cavell pousse un râle de douleur. Il est choqué, physiquement, obligé de reculer et de s'adosser au mur pour ne pas s'écrouler. Portant ses mains à ses tempes, il croit perdre la raison. C'est avec lui que vous avez développé vos compétences. C'est lui qui vous a enseigné l'histoire des passages dérobés et leurs techniques. Vincent ne veut plus rien entendre. Chaque mot prononcé par Charles lui arrache un peu plus l'armure qu'il s'est soigneusement construite depuis des années. Tout à coup, secoué par un sursaut de rage, son corps se tend. Dans un réflexe de défense, il se redresse et se jette sur Charles, qu'il saisit au col en hurlant. « Comment pouvez-vous savoir tout cela ?»
Addison ne s'alarme pas outre mesure. Il ne se débat même pas. Il encaisse et martèle. « Vous saviez qu'Étienne Bégel travaillait régulièrement pour un célèbre magicien. Un illusionniste visionnaire, grand amateur d'automates et inventeur d'exceptions. » Vincent ne sait plus s'il tient Addison ou s'il se cramponne à lui pour ne pas sombrer. Ses forces l'abandonnent. Il s'affale contre lui. À bout de souffle, il murmure comme pour s'en convaincre.
« Personne ne sait. C'est impossible. »
« C'est ainsi que vous avez rencontré Jean-Eugène Robert Houdin, le fondateur du célèbre Théâtre de Magie, expert incontesté des escamotages et créateur des plus grands tours de prestidigitation. Mais vous êtes bien placé pour savoir qu'il avait également d'autres passions, le spiritisme, les sciences occultes et les passages secrets. Vous avez directement travaillé avec lui quand Étienne Bégel est tombé malade. » Vincent sanglote. « Vous êtes le diable. Personne d'autre ne peut savoir. »
« Je ne suis pas le diable, Vincent. Jean-Eugène était mon ami. C'est lui qui m'a parlé de vous. Il m'a tout raconté. C'est également lui qui m'a présenté ceux qui sont aujourd'hui mes compagnons de recherche. Il était l'un d'entre eux.
Il appartenait à une société secrète? Vous aussi?
Pas une de celles auxquelles vous pensez. Celles-là ne sont pas secrètes. Elles ne font que parler d'elles-mêmes à mots à peine couverts pour que tout le monde les entende. Des comités folkloriques qui pillent le passé des autres pour permettre à leurs membres de se réclamer d'un esprit qui les fascine et dont ils pervertissent les sens. Non. Oubliez les faux secrets. Comme Robert Houdin et Bégel, j'appartiens à une confrérie qui, plus qu'un nom, partage un idéal. Nous agissons selon nos convictions profondes sur le seul terrain du pouvoir véritable.
L'ombre.
Vincent tremble de tous ses membres. Ni M. Robert Houdin ni M. Bégel ne m'en ont jamais parlé.
Vous étiez trop jeune. Sans doute aurait-il fini par le faire. Addison redresse Vincent, qui se rétablit maladroitement et demande « Robert Houdin est-il vraiment mort ou a-t-il disparu comme vous ?» En posant cette question, Cavell espère d'abord avoir une chance de le revoir. Son absence a laissé un tel vide. « Désolé, Vincent, Jean-Eugène n'est plus. Le destin ne lui a pas laissé le temps de mourir autrement que réellement. » Lui, le roi des disparitions, n'aura raté que la sienne. Vincent baisse la tête, exténué.
Pitié, monsieur, je ne veux plus rien entendre.
Reprenez-vous, monsieur Cavell. Nous n'en avons pas fini.
Chapitre 27. Pierre en est certain désormais, un malheur est arrivé. Il s'est d'abord dit que son frère ne s'était pas réveillé. Possible, mais surprenant, d'autant qu'il n'a jamais vu son aîné se lever après lui, toujours le premier debout, souvent le dernier couché. Il a donc pris son mal en patience, mais Vincent n'a pas réapparu. N'y tenant plus, Pierre l'a cherché dans toutes les chambres de leur pension, sans succès. Même s'il n'a pas encore alerté Conrad, le cadet se ronge les sangs depuis l'aube. Gabriel l'a remarqué, mais Pierre est resté muet, davantage pour la préserver que par prudence. L'attaque contre Stasio, perpétrée au poignard de surcroît, a fait remonter de bien mauvais souvenirs chez les deux frères. Il y a eu ensuite ce mystérieux rendez-vous dont Vincent n'a rien voulu lui dire. Depuis, personne ne l'a revu. Pierre arpente la maison en se demandant ce qu'il doit faire. Vincent lui soufflerait de ne rien négliger. La plus petite piste, même la moins probable, ne doit jamais être omise. Vérifiant à nouveau les étages, il s'aperçoit que la porte de la minuscule mansarde, au fond sous les toits, est fermée. Il ne se souvient pas qu'elle l'ait été jusque-là. Il tend l'oreille et frappe doucement. Un grognement lui répond. Prudemment, il entre. Le jour filtre entre les rangs de tuiles. Là-bas, au pied d'une vieille malle poussiéreuse, sous une couverture, gît une masse informe. Vincent ? Nouveau grognement. Pierre soupire de soulagement. Dieu merci, tu es là. Vincent râle. Pierre réplique. Ne me reproche pas d'être sur le qui-vive avec tout ce qui arrive. Recroquevillé sous un édredon crevé qui laisse échapper ses plumes, Vincent lui répond. Ne t'en fais pas, petit frère, je reviens toujours. La voix est pâteuse, la diction incertaine. Pierre fronce les sourcils. Pourquoi es-tu monté te terrer comme une bête dans ce réduit? Tu n'es pas blessé au moins? Vincent grommelle, mais ses propos sont inaudibles. Pierre s'agenouille et pose la main sur son frère. Il insiste. Réponds-moi, j'ai besoin de savoir. Nous avions convenu de ne plus aller nulle part seul, et tu t'es quand même rendu à ce rendez-vous sans personne pour t'accompagner. Son aîné se déplie et sa tête émerge de sous l'édredon déchiré. Crois-moi, c'était préférable pour tout le monde. En son fort intérieur, Vincent se demande si, plutôt que d'affronter les révélations de Charles, il n'aurait pas préféré recevoir un coup de couteau. Addison avait raison. Depuis leur entretien, il ne voit plus le monde de la même façon. Tout ce qui lui paraissait évident ne l'est plus. Bégel et Robert Houdin représentaient deux piliers de sa vie, et il n'est plus tout à fait certain de savoir qui ils étaient réellement. Ses rares certitudes ont volé en éclats. Il ne les admire pas moins pour autant, il commence même à les comprendre davantage. Ignorant des tourments de son frère, Pierre s'assoit à même le sol, à côté de lui. « Vincent, que se passe-t-il? Parle-moi. Tu ne peux pas éternellement tout porter seul. Je sais que tu agis ainsi pour nous protéger, moi en particulier, mais je ne suis plus le gamin sur lequel il faut sans cesse veiller. » Vous êtes plusieurs à me le dire ces jours-ci. Tu n'as rien voulu me confier de ce que voulait Minguier. Je t'ai pourtant entendu en parler avec Henri. Le clou m'a posé des questions, j'ai répondu. Et ces rendez-vous dont on ne sait rien, l'autre soir au bal et hier soir, je ne sais où, ça c'est autre chose. Si je te pose des questions, me répondras-tu à moi aussi, comme à Henri ? Vincent se redresse et s'adosse à la malle. Des particules volent en suspens dans des raies de lumière. Je n'ai rien à te cacher, Pierre. Tout ce que je fais, c'est d'abord pour toi. Tu es toute la famille qu'il me reste. Je n'ai plus personne d'autre. S'il t'arrivait malheur, pareil pour moi. C'est pour ça que je déteste que tu prennes tant de risques. Je te sens constamment préoccupé. Tes rendez-vous nocturnes avec l'industriel, ces croquis que tu laisses traîner parmi les plans et que je ne comprends pas, ces clients que je soupçonne de ne pas être droits, partout, je sens rôder des menaces. Moi aussi. C'était déjà le cas avant la tentative de meurtre contre Stasio, mais depuis, cela ne fait qu'empirer. Tu dois me faire confiance, Pierre. Confiance ? Tu me demandes de te faire confiance ? Mais je ne fais que ça depuis que j'existe. Dès que j'ai su marcher, je t'ai suivi, toujours. Je ne l'ai jamais regretté. Déjà, quand nous jouions à cache-cache avec Clément, c'est toi qui me disais où me faufiler en m'attribuant les meilleurs coins. Le fait est que lui et les frères Villard ne m'ont jamais trouvé. Tu te faisais même prendre pour qu'ils ne me capturent pas. Je sais tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais pour moi. Ce n'est pas un problème de confiance, Vincent, mais une question de sécurité. Moi non plus, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Face à tout ce qui se passe, nous serions certainement plus forts à deux. En croyant m'épargner, tu m'écartes. Et tu te prives de ton meilleur allié. Vincent ne répond pas. Pierre le veut pourtant. Il insiste. Qu'en dis-tu ? Pour toute réponse, Vincent attrape son jeune frère par le cou et le fait basculer contre lui. Un geste animal, un réflexe de meute. Ils restent un long moment serrés l'un contre l'autre, comme quand ils étaient gosses. Cette réalité-là dépasse les états d'âme qu'affronte Vincent. Ils ont beau être deux hommes, l'enfance n'est jamais loin. Tous deux y trouvent un réconfort salvateur. Loin des flots tumultueux de leur vie, les voilà à l'abri, sur un îlot qui n'appartient qu'à eux et dont ils sont les seuls à connaître le chemin. Vincent finit par rompre le silence. « Tu as raison, je vais te raconter et tu m'aideras. » Pierre est heureux. Même si c'est pour des problèmes, il préfère être au plus près de son frère. Celui-ci lui frictionne affectueusement le crâne et le décoiffe. L'épi de cheveux châtains qu'il s'évertue à dompter depuis toujours ressurgit, faisant sourire Vincent. « Mais avant, annonce l'aîné, j'ai une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu désires le plus au monde ?»
Chapitre 28. Pour leur livraison numéro 49, Vincent n'est pas seul. C'est une première. Pierre et Conrad n'en reviennent pas eux-mêmes. Ils ont été surpris lorsque, au moment du départ, Cavel leur a demandé de le suivre. À la hâte, ils ont enfilé leurs vêtements les plus propres et se tiennent à présent comme deux écoliers avant l'inspection. La pièce d'acajou sculptée par le menuisier est en place. Et c'est à peine si on la remarque, tant les deux pans de bibliothèque qui occupent tout un angle de la salle sont grandioses. Les rayonnages sont intégralement remplis de livres. Études de loi, minutes de délibération reliées et encyclopédies s'alignent jusqu'au sommet. Les trois compagnons attendent, sous les ors de ce fastueux bureau dont ils ont disposé pour leurs travaux, dans ce bel immeuble neuf de la rue Saint-Honoré. Des voix dans le couloir les alertent. Pierre et Conrad se raidissent. Vincent ne semble même pas avoir entendu. La porte s'ouvre sur un homme qui fait une entrée théâtrale.
« Vincent, mon cher ami, on me dit que vous m'attendez depuis un moment déjà. On voit bien que vous ne subissez pas ces réunions de la chambre qui s'éternisent toujours. »
« Mes respects, monsieur le député. Aucune excuse n'est nécessaire, nous sommes à votre disposition. » L'homme se fige en découvrant l'immense bibliothèque. Elle est si haute qu'une échelle a été prévue pour accéder aux étagères les plus élevées.
« Splendide ! Encore plus impressionnante que ce que j'imaginais. Et j'ai de l'imagination !»
Il se retourne vers sa suite qui se presse déjà sur le seuil, prête à toutes les flatteries, et lui claque la porte au nez. Remarquant enfin le cadet et l'allemand, il demande « Vos ouvriers ?»«
Mes partenaires, monsieur. Ce sont eux qui ont imaginé et fabriqué votre meuble avec moi. »
« Ils sont donc dans le secret. »
« Et le garantissent au même titre que votre serviteur. N'ayez aucune crainte. »
Le député se frotte les mains. Il semble content de lui. Vincent n'a aucune estime pour cet homme. Beau parleur, il ne manque jamais une occasion de rappeler ses titres, voire de les exagérer. Il est cependant plus connu pour son assiduité à la maison close de la rue Chabanais qu'à la Chambre des députés. Son père était influent et respecté sous la Deuxième République, mais le rejeton s'est contenté de profiter du sillon ouvert pour se vautrer dans l'opulence sans la légitimité de son géniteur. Son seul talent consiste à intriguer pour s'y maintenir. L'individu caresse du bout des doigts les tranches des volumes. Satisfait, il lance.
Avouez que cette installation a plus d'allure qu'un coffre-fort.
Ce décor ne manquera effectivement pas d'impressionner les visiteurs. Un homme a toujours l'air plus intelligent devant une bibliothèque, même s'il ne sait pas lire. Vincent a fini par comprendre ce que ce flambeur compte dissimuler dans son placard secret. Des livres licencieux aux gravures explicites mettant en scène des femmes légères en galante compagnie. Il y ajoutera un beau paquet d'actions obtenues en échange de passe-droits et d'avantages dont il dispose aux frais de l'État. Vincent n'a pas pour habitude de mépriser, mais s'il devait un jour s'y résoudre, ce serait assurément ce genre de personne.
Alors, Vincent, vais-je enfin pouvoir jouir de mon bureau ?
Tout est en place, monsieur, selon vos désirs.
Qu'attendez-vous pour me faire une démonstration ?
Puis-je vous proposer une autre façon de découvrir ce que vous serez le seul à localiser ?
Parbleu, pourquoi pas ?
Imaginons un instant que vous êtes un simple visiteur.
J'y suis. Vous voulez que je cherche moi-même afin d'être certain qu'il est impossible de trouver mon coffre secret.
Quelle brillante perspicacité. Pour l'heure, vous êtes comme ceux que vous inviterez. Vous avez cependant sur eux l'avantage de savoir qu'il existe un compartiment dissimulé. Êtes-vous d'accord pour tenter de le dénicher ?
Bien sûr, c'est très amusant.
L'homme se précipite comme un enfant et commence à parcourir les rayonnages remplis d'ouvrages en tâtonnant.
Faut-il tirer un volume, appuyer sur un autre ? La cache est-elle à hauteur des yeux ?
Pardonnez-moi, monsieur, mais à moins que vous ne m'en donniez l'ordre, je ne vais pas répondre et vous laisser le privilège de la découverte. Pierre et Conrad observent. Ils échangent parfois un regard amusé lorsque le député frôle l'endroit sans rien soupçonner. Il papillonne, appuie, tire, pousse, suit des doigts le contour des moulures du meuble sans prendre le temps de raisonner. Il se disperse sans méthode. Ses gesticulations deviennent bientôt si ridicules que Conrad étouffe un rire qu'il fait passer pour une toux. Vincent se perd dans ses réflexions. Il se dit que Pierre a raison. Et que leurs commanditaires sont de moins en moins recommandables, que finalement, les gens ressemblent à ceux qu'ils protègent. Ici, il n'y a que vices, trafic et spéculation. Ils se demandent ce qu'en auraient pensé messieurs Bégel et Robert Houdin. L'horloger aurait vraisemblablement fermé les yeux, comme il le fait lui-même, en se pliant à la loi du marché. L'illusionniste, quant à lui, aurait sans doute jugé que le député et son misérable trésor constituent un affront à l'art séculaire permettant de le dissimuler. Un jour, il avait déclaré à Vincent que les vrais passages dérobés défendent des merveilles de savoir ou de pouvoir face à l'éternité. Dans ce bureau, le subterfuge ne fait que protéger un petit homme politique de la honte et du déshonneur. Une bibliothèque de plus, la même que celle qu'ils ont construite en 10 autres endroits. Cela ne méritait pas davantage. L'esprit de Vincent vagabonde tellement loin qu'il n'entend même pas le député s'énerver parce qu'il ne trouve pas la cache. Il ne voit pas son frère se précipiter pour lui offrir la solution avant qu'il ne perde son sang-froid, appuyé sur le montant mouluré de la troisième travée pour déclencher le déclic de l'ouverture. Un peu plus loin, un panneau de bois recouvert de faux livres découpés s'entrebâille, révélant un espace inattendu. Le député jubile. La moins reluisante part de lui-même y sera parfaitement à l'abri. Vincent n'y prête aucune attention. Conrad et Pierre ont pris le relais. Addison a raison. Sa conscience ne lui permettra plus de travailler encore longtemps à des projets aussi indignes. Tôt ou tard, quel que soit son talent, un homme a besoin de lui donner du sens.